Chapitre 2. Le jeune homme était-il sincère dans ses protestations? Si on l'eût interrogé, il eût sans hésiter répondu oui. Et qui l'aurait vu accompagner des yeux sa jolie maîtresse, quand il leur fallut se séparer, aurait pensé de même. C'était devant la grille de la reine, un peu avant une heure. Emmeline avait consulté la petite montre épinglée à sa blouse, paradoxal bijou qui faisait dire à Dédi qu'elle était décorée de l'ordre du temps qui passe, et elle s'était écriée « Et moi qui déjeune de l'autre côté de Hanover Square ?»« Soyez tranquille, » avait-il répondu en riant, « il n'y a pas moyen d'arriver en retard à un lunch anglais. » Et il avait hélé en somme où il l'avait aidé à monter. Longtemps, il avait suivi du regard, en regrettant que ces espèces de guérites roulantes, au sommet desquelles est juché le siège du cocher, n'eussent point par derrière, comme les simples fiacres français, un petit guichet vitré, de quoi échanger cet adieu d'après l'adieu, où se ramasse la douceur finie du rendez-vous. Aurait-il senti de la sorte l'amoureux quitté, s'il n'avait pas aimé d'amour celle qui s'en allait, emporté au trot du rapide cheval, le long des jardinets qui font, dans cet élégant quartier, une bordure fleurie à la file des petites maisons peintes? S'il ne l'avait pas aimée, aurait-il pensé à elle si tendrement dans le cab qui prit lui-même aussitôt, après avoir crié au cocher son adresse dans Dover Street, à deux pas de Berkeley Square, la place sur laquelle donnait l'hôtel où étaient descendus les deux amis? Son cheval à lui trottait lestement aussi, tournant à gauche sa tête busquée pour secouer le fer trop gros qui brutalisait sa bouche. L'intérieur de cette voiture de hasard était, comme souvent à Londres, coquet et soigné à l'égal d'une voiture privée. Depuis son départ de France, Bertrand ne s'était pas blasé sur l'enfantin plaisir que lui procuraient les pittoresques détails du minutieux confort anglais. Ses sensations, puériles mais plaisantes, redoublaient le charme de sa fantaisiste expédition. Ce matin-ci encore, il s'amusait à regarder les deux petites glaces clouées contre les montants du cab et encadrées d'ivoire, les rideaux de soie bleue tendus en moitié des fenêtres, la boîte aux allumettes tenue par une applique de métal, la soucoupe pour les cendres fixée de l'autre côté, le tapis de caoutchouc posé sur le devant, les roses qui tremblaient aux oreilles du cheval. Il entendait le trot de la bête sonner sur ce pavé de bois où les roues caoutchoutées glissaient sans bruit et à chaque instant il croisait des voitures fringantes et rapides comme la sienne. Des omnibus passaient couverts de réclames et dont les cochers racolaient le piéton à coups de boniment. Des calèches de maître défilaient, balançaient sur leurs ressorts un col de cygne. Droit sur le siège, des cochers poudrés cambraient leurs torses épaissis par l'abus de la bière noire. À côté du tigre, du tout minuscule domestique en culotte blanche, bottes à revers, chapeau à cocarde. Les gigantesques policemen, debout au milieu de la chaussée, de la main levée arrêtée, déchaînaient le flot de ses voitures et des passants, ceux-ci en redingote dès le matin, en coiffure de haute forme, en souliers vernis, ceux-là haillonneux et de mine affreuse, le teint brûlé d'alcool, les prunelles hagardes de misère. Ce spectacle, original et contrasté de la rue londonienne, les profondeurs vertes et comme veloutées des parcs, les façades des maisons, avec la saillie de leurs fenêtres et leurs croisées en guillotine, une arche triomphale ici, plus loin une statue équestre, ailleurs l'architecture colossale d'un club, tous et rien égayaient l'œil du jeune homme, tandis que sa pensée errait autour de la maîtresse avec laquelle il venait de prolonger cette lente promenade. 20 images d'elle flottaient dans sa mémoire, charmantes et ensorcelantes. Il la revoyait telle qu'il l'avait vue pour la première fois, le jour où il lui avait été présenté, dans le monde, à Paris. Comme elle lui avait plu, dès ce premier jour, en robe rose, il s'en souvenait, avec ses yeux gais, son rire d'enfant, sa grâce mutine et, il faut l'avouer, un peu lascive. Il se rappelait sa première visite chez elle, son commencement de cours et, il faut l'avouer encore, la facilité avec laquelle s'était nouée cette liaison où il n'avait cru rencontrer qu'une aventure galante. Après 2 années, il était plus amoureux qu'au premier jour. Du moins, il le croyait et il se disait « Ce que c'est que de nous, cependant. Me voici à Londres parce qu'il a plu à Emmeline d'y venir, moi qui détestais les voyages et qui m'étais tant juré de rester toujours libre. Je m'étais promis de n'avoir jamais de chaîne dans le monde, comme tant d'amis que j'ai plaints et conseillés, et j'ai une maîtresse mariée, c'est-à-dire que les anneaux de la chaîne sont doubles. J'étais parti pour un caprice. En route, le caprice s'est changé en passion. Mais elle est si jolie, si fine, si amusante. Moi qui n'ai jamais aimé que les rêveuses. » Comme il se prononçait ces mots tout bas, au cours de ce petit monologue à demi-ironique, à demi-sentimental, un autre fantôme traversa soudain sa pensée, et ce fantôme n'avait plus ni les yeux bruns, ni les boucles châtaines, ni le sourire à fossette d'Emmeline. Maintenant, Dédie revoyait en imagination non plus celle qu'il aimait ou croyait aimer, mais celle qu'il feignait d'aimer, qu'il n'aimait pas, qu'il était bien sûr de ne pas aimer, Aliette de Lautrec elle-même, l'ami écran. C'était un garçon singulier que ce Dédie, et peut-être cette aventure risquerait-elle de rester inexplicable sans quelques indications sur ce caractère, assez différent de l'idée qu'on se fait d'ordinaire, et avec raison, d'un jeune Parisien de 30 ans qui a un joli nom, de la fortune, sa place naturelle dans les deux ou trois cercles les plus enviés et qui prolonge ses années de célibat, malgré les conseils de son père et de sa mère, dans une oisiveté banalisante. Rien de plus banal, en effet, de plus aisément vulgaire que ce personnage, pour le simple motif que, ne travaillant pas, il ne développe en lui aucune des énergies qui constituent un individu. Il oscille d'ordinaire entre deux types, celui du sportman brutal, tout voisin d'être un soudard, et celui du petit maître efféminé, précocement usé, qui, à 25 ans, en a 60. Bertrand se distinguait du premier de ces deux types par sa finesse native et du second par la spontanéité de ses sentiments. À 25 ans, il était vraiment jeune, je ne dirais pas dans la noble force de ce terme, le vice l'avait déjà touché comme un beau fruit piqué par un ver, mais il gardait une fraîcheur d'impression qui faisait de lui un roué innocent. Il s'en rencontre toujours de tel dans les sociétés où, faute d'autres intérêts, le plaisir devient la principale affaire. Celui-ci appartenait, par nature, à la grande race des amoureux de l'amour, de ceux pour qui l'univers féminin est de bonheur l'attrait suprême, et bientôt, si aucune action ne corrige ce premier penchant, l'attrait unique. Ces amoureux de l'amour, rappelez-vous ceux que vous avez rencontrés, sont rarement des amoureux tout court. Ce sont des artistes en émotion, toujours en quête d'un frisson plus subtil, d'une joie plus poignante, on croirait parfois d'une douleur plus aiguë, et qui ne peuvent se fixer dans la douce et monotone fidélité d'une tendresse constante. Aussi, ces chercheurs de sensations sont-ils ingénument, instinctivement changeants et perfides, d'autant plus dangereux qu'ils conservent, à travers les pires expériences, de la simplicité, de l'élan, de la bonne foi, une espèce d'idéal. Dans leur genèse, de pareils hommes sont particulièrement redoutables à rencontrer pour une femme pure, crédule et secrètement passionnée, ainsi que l'était Aliette de Lautrec. Comment la délicate marquise, par exemple, eût-elle jamais imaginé le mélange presque inexplicable de candeur et de cynisme, d'impulsive ardeur et de ruse, qui faisait qu'en songeant à elle, maintenant, Dédie se récitait à lui-même un nouveau monologue, pas trop en désaccord avec ses yeux d'enfant, des yeux bleus aussi, d'un bleu profond et tirant sur le noir, avec sa bouche si fraîche, si jeune, sous l'or bruni de la moustache soyeuse, avec son évidente, sa presque naïve sensibilité. Oui, d'elle deux, d'Emmeline et d'Aliette, si l'on m'avait montré leur portrait avant de les connaître, j'aurais parié que j'aimerais Aliette. Emmeline sent bien cela par moments. Ah, pourvu que notre gentil roman ne se gâte point et qu'elle ne devienne pas jalouse tout à fait, elle serait capable d'aller raconter à Aliette toute notre histoire et qu'est-ce que celle-ci penserait de moi ? Comment lui faire comprendre que si je l'ai choisie pour jouer auprès d'elle ce rôle de soupirant, c'est parce que je la savais irréprochable et si complètement insensible ? Insensible ? Il se surprit à se répéter ce mot à voix haute. Insensible ? Et sans doute ces trois syllabes éveillaient en lui un monde de curiosité bien vivante, car, passant à la hauteur de Berkeley Street, D'instinct, presque sans réfléchir, il battit de sa canne les rênes du cheval à gauche pour que le cocher prît cette rue. Celui-ci ouvrit la trappe ménagée dans le dessus de la voiture. Le jeune homme cria une adresse qui, cette fois, n'était plus la sienne, et quelques minutes plus tard, quand il sautait à bas du cab, il se trouvait devant l'hôtel où demeuraient les deux amis, mais où il était trop sûr, en ce moment, de ne rencontrer que la marquise. Il faut croire que la dualité sentimentale, si coupable dans ses conséquences et qui représente un tel abus de l'âme d'autrui, correspond, dans certaines natures complexes, à de profonds besoins et que cette anomalie est leur vraie manière de sentir. Bertrand Dédy éprouvait, en montant l'escalier qui conduisait à l'appartement occupé par Madame de Lautrec, un violent sursaut de joie intime. Et cette joie n'eût certes pas été la même s'il n'avait eu encore dans l'oreille et dans le cœur le son de la voix de l'autre, de la maîtresse, pour la tranquillité mondaine de laquelle il feignait d'aimer celle-ci. Quelques physiologistes prétendent que le lobe droit et le lobe gauche de notre cerveau constituent chacun par lui-même un cerveau complet. Une dissociation, si légère soit-elle, entre ces deux cerveaux, expliquerait les plus étranges désaccords de notre personnalité. Nous voulons ceci, c'est le cerveau droit qui l'exige. Nous voulons presque aussitôt le contraire, c'est le cerveau gauche. L'amant très réel de la voluptueuse Emmeline, l'amoureux prétendu de la pieuse Aliette, ne soupçonnait assurément pas cette commode et fantaisiste théorie. Il l'a pratiquée si ingénument, si criminellement, comme vous voudrez, que son cœur battait un peu quand le valet de pied de la marquise l'introduisit dans le petit salon où elle se tenait et qui lui ressemblait déjà, quoiqu'elle ne l'occupât que depuis ses derniers jours. Elle avait disposé, dans les vases partout épars, sur les petites tables de bois peint, dans les niches de revêtement de la cheminée, sur les encoignures, des bouquets de ces belles fleurs de serre, la plus glorieuse prodigalité du luxe de Londres, des œillets de toutes couleurs, des roses et des orchidées. Les photographies et les miniatures qui décoraient son secrétaire à Paris étaient là, dans leur cadre d'argent ciselé. Sur la chaise longue, des coussins de soie souple et un drap en peau de chamois attestaient les minutieux raffinements de la voyageuse qui, pour recevoir Bertrand, s'interrompit d'écrire. Elle était assise à un bureau placé devant la fenêtre. Le feuillage des grands platanes de Berkeley Square, les plus beaux de Londres, faisait un fond de verdure profonde à sa silhouette fine, presque trop mince, et dans cette pièce un peu sombre, d'un hôtel meublé à la mode d'il y a 10 ans, où la note dominante était la couleur intensément brune du vieil acajou anglais, la pâleur délicate de son visage, presque idéal de ligne, ses blanches mains longues et fragiles, la masse blonde de ses cheveux, se détachait avec ces nuances claires que Van Dyck recherche pour les teints, pour les doigts, pour les coiffures de ses princesses et de ses reines. Elle portait un costume de mohair dont le bleu assez foncé ajoutait encore à cet effet qui donne à la chair la fraîcheur, presque la spiritualité des pétales d'un lys. Mais ici, le lys était une très jeune et très jolie femme, chez laquelle le goût de la toilette, cette première et innocente moitié de la coquetterie, se trahissait par de gracieuses originalités de bijoux, par les émeraudes en cabochon de ses bagues, par la profusion de ses bracelets où pendaient des médailles d'or anciennes, par la fantaisie d'autres émeraudes montées en broche ou en épingle et comme répandues sur la soie de la blouse apparue sous la veste de mohair. Un plus fat que Bertrand aurait même pu discerner que ce lys trop paré était aussi une femme vaguement troublée par la visite qu'elle recevait. Ses doigts fins n'étaient-ils pas un peu nerveux dans leur façon de poser la plume? Mais les roués innocents, mais les amoureux de l'amour, nous savons que celui-là en était un, n'ont rien de commun avec la sèche et perspicace catégorie des fats. Ils sont trop complètement, trop naïvement troublés par les secrets effluves émanés de la femme pour jamais tout à fait la comprendre. Ce sont les séducteurs, séduits d'abord eux-mêmes, c'est leur demi-excuse, et qui ne calculent point. D'ailleurs, le jeune homme n'était pas là depuis 5 minutes que la marquise avait aussitôt mis l'entretien au diapason de leurs habituelles causeries. Le rôle, adopté par Dédy, d'un amoureux intimidé qui ne se déclare jamais, ne prête guère aux conversations très animées. Pour tout dire, lui-même ne les désirait pas. Ce qui le charmait dans Aliette, dans cette rêveuse et cette dévote qui semblait n'avoir jamais remarqué ses assiduités, c'était sa présence distante, si l'on peut dire, ses mouvements surveillés, le son de sa voix toujours égale, cette tenue de ses moindres paroles, où il goûtait la délicatesse de la réserve et de la modestie, et comme un exquis parfum de vertu aristocratique. Ce qu'elle pensait de lui, dans quelle mesure elle était flattée ou inquiétée de son admiration, pourquoi elle acceptait cette cour si discrète, et qui pourtant était une espèce de cour, il ne le savait pas, et même le plus souvent, il ne cherchait pas à le savoir. Un très lointain cousinage avec les Lautrec justifiait son intimité dans la maison, et c'était entre eux, quand ils se trouvaient, comme cet après-midi-là, dans le petit salon de l'hôtel de Berkeley Square, en tête à tête, des échanges de propos qui ne rappelaient en rien la conversation sous les arbres du parc avec Emmeline. Était-ce toujours le contraste, ou bien Dédi appréciait-il la parfaite justesse d'esprit dont faisait preuve cette femme, volontiers accusée d'insignifiance? Ces quarts d'heure de solitude à deux lui paraissaient toujours trop courts, car la porte de la marquise n'étant jamais condamnée, il était rare qu'une autre visite ne vînt pas rompre leur charme. En serait-il de même à Londres? Il espérait que non. Pourtant, même dans le tête-à-tête plus intime encore de ce salon d'hôtel étranger, la réservée Aliette ne prononçait aucune parole qu'elle n'eût prononcée avec la même voix posée et le même regard clair devant n'importe qui. Ce n'était, ce jour-là comme les autres, ses propos murmurés par sa douce bouche, que la chronique des impressions d'une Parisienne de son rang, soudain transportée outre-Manche. Mais cette chronique, Dédi était seul à l'écouter. Et ce jour-là encore, il semblait que leur entretien dût se prolonger et se terminer comme tous les autres, sans un mot qui fît incident. Les situations très compliquées portent toujours en elles un danger latent qu'un rien découvre, et ce rien, ici, fut la plus insignifiante des phrases, dites à un moment par Aliette. « Ce qui m'étonne le plus, et ce qui me fait presque un peu honte, c'est de voir comme les Anglais sont hospitaliers. Tenez, quand vous êtes entrés, je répondais à Lady Semley. Elle a su que nous avions admiré les murillos de Stratford House, Monsieur de Lautrec et moi, et comme elle en possède, paraît-il, de magnifiques dans son château, elle nous y invite de samedi à lundi avec Emmeline et son mari. Et elle étend cette hospitalité jusqu'à votre serviteur, répondit Bertrand. Il y eut un petit silence entre eux. Ce silence troubla le jeune homme, qui prit prétexte pour le rompre de l'allusion que son interlocutrice avait faite à des peintures. Il savait que cette silencieuse était réellement plus instruite que la plupart des femmes de son monde qui font parade de leurs connaissances acquises la veille, et il ne négligeait aucune occasion de lui prouver que lui non plus n'avait pas tout à fait les mêmes goûts que ses camarades de club et de chasse. Il se permit donc, à cette minute, un mensonge qu'il croyait bien inoffensif. Un mensonge? Non. Un virement de vérité, car il avait réellement traversé, la veille, le musée dont il allait parler. Il ne se doutait guère que tout le drame de son double sentiment tournerait autour de ce demi-mensonge. Que de fois, plus tard, il devait s'entendre prononcer ces mots, si étrangers, semblait-il, à son aventure. « N'êtes-vous pas frappé aussi de la prodigieuse quantité d'œuvres d'art amoncelées dans cette Angleterre ? Tenez, ce matin, bien par hasard, je passe devant la galerie de leurs portraits historiques, derrière l'autre galerie, la Nationale. J'y entre. Vous n'imaginez pas que de belles choses. Je suis resté là deux longues heures. Je crois que j'y serais encore si je n'avais pas eu à prendre de vos nouvelles. Je vous remercie de ce renseignement, fit-elle. Je dirai à Antoine de m'y conduire. Justement, nous ne déjeunons ni ne dînons dehors aujourd'hui. » C'était le vendredi, et Bertrand comprit que la dévote marquise avait craint de ne pouvoir faire mère à une table protestante. Et, comme si elle eût eu la pudeur de son scrupule religieux, elle reprenait « Après une semaine de Londres, une pauvre petite Française a le droit de se reposer. Ces belles grandes Anglaises, elles, sont en acier. Cette Lady Helston, qui nous a donné ce magnifique bal hier, savez-vous qu'elle avait, dans l'après-midi, à 2 heures de Londres, ouvert une exposition de tissus faite dans son comté par des pauvres, et elle y avait prononcé elle-même un speech ? Il paraît qu'elle est un grand orateur. Vous n'admirez pas cette énergie ?
Pas beaucoup, fit-il. Je suis de la vieille école. La femme, pour moi, est destinée à représenter ici-bas toutes les délicatesses et toutes les fragilités. C'est la dame qui donne le prix du tournoi, mais qui ne descend pas dans l'arène.
Il y a pourtant un devoir social, répliqua la frêle Aliette avec cette vivacité qui, de temps à autre, décelait la flamme intérieure. Et c'est la vraie charité, celle qui se donne elle-même. Je suis bien désintéressée dans la question. Avec un sourire, qui corrigeait ce qu'elle trouvait sans doute d'un peu excessif dans l'élan de sa réponse, je n'aurai jamais la force physique.
Bon, dit-elle en entendant la porte s'ouvrir. Voilà monsieur de Lautrec.
Était-elle contente, était-elle fâchée que l'arrivée de son maître et seigneur interrompît cette innocente tête-à-tête ? Ses profonds yeux bleus et son discret sourire ne laissaient pas plus deviner leur secret ce jour-là que les autres jours. Et pourtant, rien qu'à voir à côté l'un de l'autre, l'amoureux et le mari, un observateur, même peu malveillant, aurait soutenu qu'une jeune femme de cette délicatesse d'esprit, de cette sensibilité affinée et rare, devait bien avoir de la peine à ne pas préférer le premier au second. Tout dans Antoine de Lautrec disait la pauvreté de nature, la fin d'un sang autrefois héroïque, auquel il ne reste plus, comme un vin trop passé, ni force ni chaleur. Cet héritier d'une lignée d'hommes de guerre était un malingre et chétif garçon au teint maladif, déjà chauve à moins de 30 ans, avec un front petit, des yeux inexpressifs, des épaules étroites. Il n'avait pour lui, mais il l'avait, qu'une espèce de distinction innée, ce grand air qui ne s'imite pas et qui survit dans certains descendants décrépits de très illustres familles à toutes les dégénérescences. Il était célèbre pour une vanité nobiliaire, d'autant plus étrange chez un aussi grand seigneur qu'en dehors de ce ridicule, il était parfaitement bien élevé. Emmeline de Sarliève, qui avait de l'esprit, l'appelait le snob de lui-même, et le fait est qu'il portait au Lautrec, dans sa personne, un respect aussi ému que s'il eût été un bourgeois de la finance ou de l'industrie, entêté d'aristocratie et admis à l'honneur de dîner chez un duc. Depuis qu'il était en Angleterre, sa manie s'exaspérait encore. « Je suis un peu en retard, » dit-il à sa femme en s'excusant. « Je vous ferai prendre votre lunch vraiment trop à l'anglaise. Je viens du parc. » « Mon Dieu, quel plaisir d'être dans un pays où tout est à sa place. Ce parc, où il n'entre que des voitures particulières, comme c'est intelligent, comme c'est propre. Allez donc essayer cela à Paris. Il en est de même pour les préséances. Nous ne savons plus ce que c'est. Un livre de Pirège à notre usage, comme celui-là. » Et il montra le gros volume rouge qui traînait sur une table. « Voilà ce qui nous manque en France. » « Ce n'est pas votre avis, Dédi. Vous êtes un radical, vous, comme vos deux arrière-grands-pères de la nuit du 4 août. Vous avez vu pourtant où ils ont fini. Restez-vous avec nous à déjeuner. L'air a dû vous donner de l'appétit comme à moi. Je vous ai fait signe tout à l'heure. J'étais à l'extrémité de Rotten Row et vous descendiez par la grande allée de Kensington avec Emmeline. Je n'ai pas vu Sarliève. » « Décidément, pensait Bertrand, tandis que le petit homme débitait cette fin de discours, il n'y a que les maris pour se permettre des gaffes de cette force. Il racontera cette rencontre à Sarliève, je le parierai. Bah, ça n'a pas d'importance. Emmeline dira à ce dernier qu'elle m'a rencontré par hasard. Elle est assez forte pour le lui avoir peut-être déjà dit. C'est son principe de ne jamais mentir inutilement. C'est son principe de ne jamais mentir inutilement. » Comme elle a raison. Et moi qui, tout à l'heure, parlais à Aliette de ma visite aux portraits nationaux. Toutes ces idées se présentaient à la fois à son esprit pendant qu'il répondait. Ah, vous m'avez vu? C'est vrai, j'accompagnais Madame de Sarliève deux pas. Je venais de la rencontrer par hasard en traversant le parc. Que je regrette de ne pas vous avoir aperçu, nous serions revenus ensemble. Non, je ne peux pas déjeuner avec vous, je vous remercie. Je suis attendu moi-même et il faut même que je me sauve tout de suite. » Et 5 minutes plus tard, descendant avec une singulière mauvaise humeur l'escalier qu'il avait monté si gaiement, « C'est trop bête tout de même d'avoir raconté à Madame de Lautrec que je sortais d'un musée quand je suis venu chez elle.
Avais-je besoin de me donner cet alibi quand on ne me demandait rien? Ça m'est parti comme cela. Pourquoi? Pourquoi? Et il sourit à cette idée. C'est la mauvaise conscience. Et ce qui est encore plus bête, c'est que je n'ai pas osé regarder Aliette pendant qu'Antoine m'infligeait ce démenti irréfutable. Car enfin, si j'étais à Kensington à 1 heure, je n'ai pas pu être en même temps à Trafalgar Square, ni même passer par Kensington pour revenir de Trafalgar Square. C'est vraiment trop loin. Mais elle n'aura rien remarqué. Je lui suis si indifférent.